Chapitre 33. Histoire de Myriam. Le lendemain matin, quand Dionysius arriva, il trouva la malade et sa compagne fidèle si heureuses et si gaies qu'il les félicita de la bonne nuit qu'elles avaient dû passer. Cette idée fit sourire les deux jeunes filles. Elles répondirent qu'en effet, cette nuit était la plus heureuse de leur vie. L'étonnement de Dionysius cessa lorsque Myriam, prenant la main de Fabiola, la mena vers lui et lui dit « Vénérable prêtre de Dieu, je confie cette catéchumène à vos soins paternels. Elle désire être instruite des mystères de notre sainte foi afin d'être régénérée dans les eaux du salut éternel. » « Quoi ? » demanda Fabiola surprise. « Êtes-vous donc autre chose qu'un médecin ?» « Mon enfant, répondit le vieillard, bien qu'indigne, j'exerce le saint ministère de prêtre dans l'église de Dieu. » Alors Fabiola s'agenouilla sans hésiter devant lui et lui baisa la main. Le prêtre posa sa main droite sur la tête de la jeune fille en lui disant « Ayez bon courage, ma fille, vous n'êtes pas la première de votre maison que Dieu appelle dans sa sainte église. » Il y a bien des années déjà que j'y suis venu, soi-disant comme médecin, mais amené en réalité par une servante âgée qui n'existe plus pour baptiser, quelques heures avant sa mort, l'épouse de Fabius. « Ma mère !» s'écria Fabiola. « Elle mourut aussitôt après m'avoir donné le jour. Mourut-elle donc chrétienne ?»« Oui, mon enfant. » Et je ne doute pas que son âme n'ait plané sans cesse sur la vôtre, voltigeant autour de vous, à côté de l'ange qui vous garde, et, invisible à vos yeux, vous conduisant à cette heure bénie. Devant le trône de Dieu, elle n'a cessé de lui adresser pour vous les plus ardentes supplications. » La joie remplissait le cœur des deux amies. Elles prirent avec Dionysius les arrangements nécessaires pour que Fabiola reçût les instructions préparatoires à l'admission du baptême. Puis la jeune fille, venant auprès de Myriam, lui prit la main et lui dit d'une voix douce et presque suppliante « Myriam, puis-je maintenant vous appeler ma sœur ?» Myriam répondit en pressant doucement la main de son amie. La vieille nourrice Phrosine, l'esclave grecque, se disposèrent avec leur maîtresse à recevoir le baptême la veille de Pâques. Nous ne devons pas oublier de joindre à la liste des catéchumènes la petite Emerentia, la sœur de lait d'Agnès, que Fabiola avait recueillie et gardait avec elle. L'enfant était joyeuse de se rendre utile et c'était une messagère toujours prête entre la chambre de la malade et le reste de la maison. Pendant sa maladie, Myriam, lorsque ses forces revinrent, raconta à Fabiola plusieurs circonstances particulières de sa vie passée. Comme ces détails jetteront quelques lumières sur le commencement de notre récit, nous les résumerons en donnant l'histoire de la jeune fille. Plusieurs années avant le début de notre récit, vivait à Antioche un homme qui, sans appartenir à une ancienne famille, possédait une grande fortune et fréquentait la société la plus distinguée de cette ville. Pour se maintenir dans cette haute position, il faisait de grandes dépenses et, manquant d'ordre d'économie, il fut bientôt couvert de dettes. Il avait épousé une femme de haute vertu qui devint chrétienne, secrètement d'abord, puis ouvertement, avec le consentement forcé de son mari. En même temps, leurs deux enfants, un fils et une fille, étaient élevés sous les yeux et par les soins de leur mère. L'aîné, Orontius, ainsi appelé du nom du fleuve qui arrosait la ville d'Antioche, avait 15 ans lorsque son père découvrit la religion de sa femme. Sa mère lui avait déjà enseigné les doctrines du christianisme et souvent il accompagnait aux cérémonies de l'église. C'est ainsi qu'il acquit les connaissances dangereuses dont il devait faire un usage si fatal. Mais il n'avait pas la plus légère inclination pour embrasser les doctrines ou adopter les pratiques du christianisme et ne voulut pas se préparer au baptême. Volontaire et rusé, il ne voulait admettre aucun joug qui pût retenir ses passions et repousser les principes d'une morale sévère. Il cherchait à briller en ce monde et à jouir de tous les plaisirs de la vie. Il avait reçu et continuait à recevoir une éducation soignée. Il savait non seulement le grec, qu'on parlait généralement à Antioche, mais avait étudié le latin, il s'exprimait dans cette langue avec aisance et goût, quoique sa prononciation, comme nous l'avons vu, fût entachée d'un léger accent. Dans la famille, on employait avec les serviteurs et dans la conversation familière l'idiome du pays. Orontius ne fut pas fâché lorsque son père l'affranchit du contrôle maternel et y demanda de continuer à suivre la religion dominante et favorisée par l'État. Quant à la fille, qui était plus jeune de 3 années, le père s'en préoccupa moins. Il trouvait indigne et ridicule à un homme d'attacher de l'importance à la religion et surtout, changer ou abandonner la religion de l'Empire était à ses yeux un signe de faiblesse. Mais les femmes, dont l'imagination est la faculté maîtresse, pensait-il, et qui se laissent dominer par le sentiment, peuvent avoir sans inconvénient des idées de ce genre. C'est pourquoi il permit à sa fille Myriam, dont le nom était syrien, parce que sa mère appartenait à une riche famille d'Éphèse, de continuer librement l'exercice de sa nouvelle foi. La jeune fille, dont l'intelligence avait reçu une culture élevée, devint un modèle de vertu, de simplicité ignorante d'elle-même. On était à une époque où la cité d'Antioche possédait des philosophes fameux. Quelques-uns étaient chrétiens. Peu d'années plus tard, lorsqu'Orontius atteignit l'âge d'homme et que son caractère dangereux se dessina clairement, sa mère mourut. Avant de mourir, elle avait découvert quelques indices de la ruine prochaine de son mari. Désirant soustraire sa fille aux conséquences de cette mauvaise administration et à l'égoïste ambition de son frère, elle la garantit de ces 2 dangers en lui léguant sa grande fortune. Elle résista à toutes les influences, à tous les artifices employés pour l'amener à se dessaisir de cette fortune. Elle ne voulut pas qu'elle servît à augmenter le luxe ruineux de son mari ou à aider à le tirer des embarras où il s'était mis. Sur son lit de mort, au milieu de ses recommandations maternelles, elle conjura sa fille, au nom du devoir filial, de ne jamais souffrir, quand elle serait en âge, qu'on changeât ses dispositions suprêmes. Les choses allèrent de mal en pis, les créanciers pressés, on disposa mal à propos des propriétés, quand un personnage mystérieux, appelé Eurotas, fit son apparition dans la famille. Personne, excepté le chef de famille, ne le connaissait. Il regarda sa venue à la fois comme un bienfait et une malédiction, comme s'il apportait avec lui la ruine ou le salut de tous. Le lecteur n'a pas oublié les révélations d'Eurotas lui-même. Il nous suffira d'ajouter qu'il était l'aîné des 2 frères, mais qu'il avait conscience de sa nature rude et sinistre à la fois. Il n'était pas doué des qualités qui pouvaient le rendre capable de relever l'honneur et d'augmenter les richesses de la famille dont il se trouvait le chef, et son caractère morose le portait plutôt à la vie aventureuse qu'à l'administration paisible d'une propriété assurée. Il partit donc, portant avec lui l'ambition d'élever le rang de la maison plus haut encore, d'augmenter ses richesses, et prenant une somme médiocre, il commença un commerce opiniâtre dans l'intérieur de l'Asie, pénétra en Chine et jusque dans l'Inde. Et après quelques années d'absence, il revenait avec une grande fortune et une rare collection de pierres précieuses qui aidèrent son neveu dans sa rapide carrière à Rome, qui se termina par la ruine complète de 2 associés. Eurotas, au lieu d'une famille opulente à laquelle il apportait des richesses superflues, trouva une maison en banqueroute qu'il fallait sauver de la ruine. Mais son orgueil de famille prévalut, et après de sanglants reproches et d'amères querelles tenues secrètes entre lui et son frère, il paya les dettes en détruisant tout son capital et devint ainsi le maître de tous les débris des propriétés de son frère et de la famille entière. Après quelques années d'une vie pesante, le frère d'Eurotas tomba malade et mourut. Sur son lit de mort, il déclara à son fils Orontius qu'il n'avait rien à lui laisser, que depuis plusieurs années, l'argent qui les faisait vivre et la maison même qui les abritait appartenait à son ami Eurotas, dont il n'expliqua pas la parenté, mais qu'Orontius devait regarder comme son guide et son soutien. C'est ainsi que le jeune homme, qui était rempli d'orgueil, d'ambition, qui avait soif des plaisirs, se trouva livré aux mains d'un homme dont le cœur insensible et froid ne connaissait pas le remords et dont l'ambition était sans bornes. Il commença bientôt à lui demander, comme base de confiance réciproque, une soumission absolue à sa volonté. Il consentait à agir aux yeux du monde en inférieur, à condition que le jeune homme admît en principe qu'il n'y avait rien de trop grand ni de trop petit, rien de trop noir ou de trop mal qu'il ne dût accomplir pour rendre à la famille sa position élevée et sa richesse passée. Après la ruine de la maison, il devenait impossible de rester à Antioche. Avec un bon capital dans les mains, ils auraient pu tenter quelque chose ailleurs. Mais la vente de tout ce qui restait suffit à peine à payer les dettes que laissait le père de Rontius. Un seul bien demeurait intact, la fortune de la sœur. Les deux complices convinrent qu'il fallait la lui enlever. Ils essayèrent par tous les moyens de persuader ou de tromper Myriam, mais la jeune fille résista fermement à tous leurs artifices. Elle voulait obéir aux dernières volontés de sa mère mourante et désirait, à l'aide de cette fortune, établir une maison où des vierges consacrées à Dieu viendraient se retirer et où elle avait l'intention de passer ses jours. Elle avait atteint l'âge légal. Elle pouvait disposer de ses biens. Elle leur offrit tous les avantages qu'elle crut pouvoir leur donner et leur proposa même de vivre tous pendant un temps sur ses propres revenus. Mais tout ceci ne répondait pas à leur vue, et quand toutes les démarches eurent échoué, Eurotas commença à insinuer qu'il fallait à tout prix se débarrasser d'une personne qui était de trop sur leur route. Orontius frémit à la pensée de cette proposition. Peu à peu, Eurotas le familiarisa avec cette idée. Il vint enfin à penser, bien qu'en frissonnant toujours à l'idée d'un fratricide, qu'il ferait une action presque vertueuse, comme le pensèrent aussi les frères de Joseph, en adoptant un moyen plus lent et moins sanguinaire pour en finir avec une sœur gênante. Employer un stratagème, commettre un acte de violence invisible que la loi ne pourrait condamner et que personne n'oserait révéler, lui offrirait les meilleures chances de succès. Parmi les privilèges dont jouissaient les premiers chrétiens, nous avons déjà nommé le droit de garder chez eux la Sainte Eucharistie pour la communion privée. Nous avons dit qu'on l'enveloppait d'abord dans un érarium ou linge blanc que recouvrait un morceau d'étoffe richement brodé. Ce précieux trésor était gardé dans un coffret, arca, qu'un couvercle fermait soigneusement, comme Saint Cyprien nous l'apprend. Orontius connaissait le secret. Il savait que sa sœur préférait l'objet sacré renfermé dans ce coffret à l'argent et à l'or. Il n'ignorait pas que laisser tomber par négligence une parcelle de ce pain sacré était considéré comme un crime, ainsi que les pères nous l'affirment, et que le nom de perle, donné au moindre fragment de ce pain, indiquait son prix inestimable aux yeux des chrétiens qui devaient être prêts à perdre tout leur bien pour garantir le saint des saints d'une sacrilège profanation. L'écharpe richement brodée, qui a déjà paru dans notre récit, était l'enveloppe avec laquelle la mère de Myriam recouvrait son trésor. Et la jeune fille la regardait comme deux fois précieuse, comme un cher héritage et comme un objet sacré, et elle continuait à l'employer à ce saint usage. Un jour, dès l'aurore, la jeune fille s'agenouilla devant le coffret béni, et après s'être préparée par une fervente prière, elle allait l'ouvrir. À sa grande douleur, elle le trouva déjà ouvert. Son trésor était enlevé. Comme Marie-Madeleine au sépulcre, elle pleura amèrement parce qu'il lui avait pris son Seigneur et qu'elle ne savait pas où il l'avait déposé. Comme elle aussi, en pleurant, elle se pencha sur le coffret et aperçut au fond un papier dont la vue avait échappé d'abord à son regard troublé. Ce papier lui apprenait que ce qu'elle cherchait était entre les mains de son frère et qu'elle pourrait le lui racheter. Elle courut de suite vers lui. Il était enfermé avec l'homme sinistre, en présence duquel elle avait toujours tremblé. Elle s'agenouilla devant lui et le supplia de lui rendre un bien qu'elle estimait plus que toutes les richesses. Il était sur le point de céder à ses larmes et à ses prières, quand Eurotas, fixant sur lui un regard sombre, l'intimida et s'adressa à la jeune fille en lui disant « Myriam, nous vous prenons au mot. Nous allons éprouver l'ardeur et la réalité de votre foi. L'offre que vous venez de faire est-elle sincère ? J'abandonnerai tout ce que je possède en ce monde pour garantir le saint des saints de la profanation. » Alors signez ce papier, dit Eurotas avec un ricanement. Elle prit une plume, parcourut de l'œil le parchemin et signa. C'était l'abandon total de ses biens à Eurotas. Eurontius devint furieux quand il se vit jouer par l'homme auquel il avait donné l'idée du piège qui devait vaincre les résistances de sa sœur. Mais il était trop tard et le poids du joug pesant que lui faisait subir Eurotas devint plus lourd encore. On arracha à Myriam une plus formelle renonciation de ses biens en l'accompagnant des formalités requises par la loi romaine. Pendant un temps bien court, on la traita avec douceur. Puis on commença à lui insinuer qu'elle serait obligée de quitter la maison parce qu'Eurotas et son pupille iraient s'établir à Nicomédie, résidence de l'empereur. Elle demanda à être envoyée à Jérusalem où elle obtiendrait d'entrer dans une communauté de saintes femmes. On l'embarqua à bord d'un vaisseau mal approvisionné dont le capitaine avait un caractère reconnu suspect. Mais elle portait autour de son cou ce qu'elle estimait plus que toutes les richesses, selon la preuve qu'elle en avait donnée. Comme saint Ambroise le raconte en parlant de son frère Satyrus, encore catéchumène, les chrétiens, lorsqu'ils s'embarquaient pour un voyage, portaient la Sainte Eucharistie autour de leur cou. Nous n'avons pas besoin de dire que Myriam avait enveloppé son trésor dans le seul objet de prix qu'elle tenait à garder de la maison paternelle, l'écharpe brodée. Quand le vaisseau fut hors de vue, le capitaine, au lieu de se diriger du côté de Joppé ou d'un autre port de la côte, alla droit devant lui, comme s'il voulait faire un plus lointain voyage. Quel était son but, on ne pouvait le deviner. Mais les rares passagers commencèrent à s'alarmer et une sérieuse altercation s'ensuivit. Elle fut interrompue par une tempête soudaine, le vaisseau fut livré pendant quelques jours à la merci des vents et alla se briser sur un banc de rochers près de l'île de Chypre. Comme Satyrus, Myriam attribua son salut au précieux fardeau qu'elle portait. Elle fut la seule personne qui survécut, ou du moins elle ne vit aucun passager qui eût été sauvé comme elle. Ceux qui échappèrent, en retournant à Antioche, annoncèrent la mort de la jeune fille, avec celle de l'équipage et des autres passagers. Elle fut recueillie sur le rivage par des hommes qui vivaient des dépouilles des vaisseaux. Seule et sans amis, on la vendit à un marchand d'esclaves. Conduite à Tarsus sur le continent, on la revendit à une personne de haut rang qui la traita avec bonté. Peu de temps après, Fabius envoya un de ses agents en Asie en lui ordonnant de lui ramener à tout prix une esclave aux manières douces et polies et au caractère vertueux s'il était possible, afin de la placer près de sa fille. C'est ainsi que Myriam, sous le nom de Syra, vint apporter le salut dans la maison de Fabiola.